Chapitre 21, Sermon sur la montagne. Le Rédempteur du monde cherchait à rendre ses leçons si simples que tous ceux qui l'entendaient puissent les comprendre. Il ne choisissait pas pour les enseigner les lieux entourés de murailles ou les temples. Il est vrai qu'il le fit souvent pour atteindre une classe de gens qu'il ne rencontrait pas en parlant en plein air, mais Jésus préférait les champs, les bosquets et les rives des lacs pour ses temples. C'était aussi ses refuges favoris pour la méditation et la prière. Il avait des raisons spéciales pour choisir ses sanctuaires naturels pour y instruire le peuple. La campagne s'étalait devant lui, riche en scènes et en objets également familiers aux altiers et aux humbles. Il en tirait des exemples qui simplifiaient ses enseignements et s'imprimaient dans l'esprit de ses auditeurs. Les oiseaux chantant sur les branches feuillées, les fleurs éclatantes des vallées, le lis immaculé, étalant ses fleurs sur la surface du lac, les grands arbres, les campagnes fertiles, les blés ondoyants, les landes stériles, les arbres sans fruits, les hautes montagnes, les ruisseaux murmurants, le soleil couchant qui empourprait et dorait le ciel, tout servait de moyens d'instruction, ou d'emblèmes par lesquels il enseignait les beautés de la vérité divine. Il rattachait les œuvres visibles du Créateur aux paroles de vie qu'il annonçait, et élevait ainsi l'esprit par la contemplation de la nature au Dieu de la nature. La méchanceté des Juifs était si grande par suite de la guérison, en un jour de sabbat, de l'homme qui avait une main sèche, qu'il s'en alla avec ses disciples chercher un champ d'activité plus favorable. Ils vinrent sur les bords du lac de Galilée, et de grandes multitudes le suivirent. Car le dernier miracle fait en un jour de sabbat s'était ébruité dans toute cette région. Comme Jésus enseignait, beaucoup de malades lui furent apportés et on amenait ceux qui étaient possédés d'esprits immondes, et il les guérissait. Son cœur plein de charité se remplissait d'une divine pitié pour ces pauvres souffrants. Beaucoup cherchaient seulement à l'approcher d'assez près pour le toucher, croyant qu'en faisant cela il serait guéri, et ils n'étaient point déçus, car l'attouchement de la foi faisait sortir du grand médecin une vertu qui changeait la détresse et le chagrin en joie et en action de grâce. Il chassa aussi plusieurs démons qui, en abandonnant leurs victimes, reconnaissaient Christ, en s'écriant, « Tu es le Fils de Dieu ». Les gens de Galilée se rassemblèrent en foule autour de Jésus. À la fin, ils s'accrurent tellement qu'il avait de la peine à se tenir debout parmi eux, c'est pourquoi il entra dans un petit bateau qui était près du bord, et de là prêcha à la foule rassemblée sur la côte. Il travaillait ainsi sans interruption, soit en enseignant le peuple, soit en guérissant les malades. Mais quand la plus grande partie de la journée était passée, il se retirait lui-même dans les solitudes des montagnes, afin de communiquer avec son Père dans le secret. Jésus passait la nuit entière à prier pendant que ses disciples dormaient au pied de la montagne. Vers l'aube, il venait et les réveillait. Les disciples allaient bientôt recevoir une charge d'une responsabilité sacrée, charge qui n'avait de supérieure que celle de Christ lui-même. Ils allaient être mis à part pour l'œuvre évangélique. Ils devraient marcher avec Jésus, être avec lui, partager ses joies et ses épreuves, recevoir ses enseignements, et être les fidèles témoins de ses œuvres merveilleuses, afin d'être capables de prêcher au monde les instructions qu'ils avaient ainsi reçues. Ils devaient être qualifiés de manière que Jésus pût parfois les envoyer enseigner et accomplir les mêmes œuvres qu'il accomplissait. Jésus désirait que ses disciples acquissent de l'expérience dans l'œuvre évangélique pendant qu'il était sur la terre pour les soutenir et les diriger, afin qu'ils puissent après sa mort continuer son œuvre avec succès et poser le fondement de l'Église chrétienne. Pendant que Jésus préparait ses disciples pour cette mission, et qu'il les instruisait de leurs devoirs dans cette grande œuvre qui était devant eux, Judas sollicita une place au milieu d'eux. Cet homme faisait grande profession d'être dévoué à Jésus, et se proposa pour être un de ses disciples. Il dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Jésus ne le reçut pas joyeusement, et ne le repoussa pas non plus, mais il lui adressa ces paroles pleines d'une triste éloquence. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Judas était égoïste, et son but principal en cherchant à se joindre à Christ, était d'obtenir des avantages temporels par son moyen. Mais Christ en rappelant sa pauvreté, et comparant sa condition avec celle des renards et des oiseaux, avait pour but d'enlever à Judas toute espérance qu'il pût nourrir de se procurer des gains terrestres en devenant un disciple de Christ. Judas était un homme habile, plein de connaissances pratiques, et il possédait une grande influence. C'est pour cette raison que les disciples de Christ désiraient qu'il fût un des leurs. Ils le recommandèrent chaleureusement à Jésus comme l'un de ceux qui pourraient le mieux l'assister dans son œuvre. Ils furent par conséquent surpris qu'il le reçût si froidement. Mais le Sauveur lisait dans le cœur de Judas, et savait, même alors, la part qu'il aurait dans sa trahison, et dans sa mort. Malgré cela, Jésus désire mettre cet homme en rapport avec lui, afin qu'il pût apprendre sa mission divine, et acquérir la force morale de vaincre les défauts de son caractère, et de changer entièrement son cœur, ce qui eût assuré son salut. Il lui était possible de faire cela avec l'aide de Christ. Si Jésus avait repoussé Judas, les disciples qui le regardaient si favorablement, auraient douté de la sagesse de leur maître. En le recevant, Jésus évita cela, et plaça ainsi l'égoïste et avare Judas dans la position la plus favorable pour développer les qualités de son esprit et de son cœur, afin qu'il pût éventuellement acquérir une place au royaume des cieux. Mais nonobstant ces précieux avantages, Judas choisit une voie qui le couvrit d'une éternelle infamie. Rassemblant ses disciples autour de lui, Jésus s'agenouilla au milieu d'eux, et, posant ses mains sur leur tête, il présenta une prière à Dieu, les consacrant à son œuvre sacrée. C'est ainsi que les disciples du Seigneur furent ordonnés au ministère évangélique. Ceci étant accompli, Jésus retourna avec ses apôtres sur les bords du lac de Génézareth, où les foules s'assemblaient déjà pour l'entendre. Beaucoup d'entre eux étaient là dans le but d'être délivrés de leurs diverses maladies. Il guérit les malades et secourut les affligés jusqu'à ce que la foule augmentât à tel point qu'il n'y eut plus de place pour eux sur la côte étroite. C'est pourquoi Jésus se rendit sur la montagne dans un espace uni où le peuple pouvait se placer. Il appela ses disciples auprès de lui, afin que les grandes vérités qu'il leur présenterait ne manquassent pas de produire en leur cœur une impression indélébile, et que rien ne vînt distraire leur attention de ses paroles. Quoique les disciples fussent tout près de lui, et que ses paroles semblassent leur être adressées spécialement, elles étaient encore destinées à atteindre les cœurs et les consciences de la foule mélangée qui était réunie autour de lui. Dans chaque grande assemblée de ce genre, le peuple s'attendait à ce que Jésus fît grande preuve de sa puissance en vue du nouveau royaume dont il avait parlé. Les Juifs croyants regardaient à lui pour qu'il les délivrât du joug et de la servitude des Romains, et qu'il les rétablît dans leur ancienne gloire. Mais dans son sermon sur la montagne, Jésus renversa leurs espérances de gloire terrestre. Il ouvrit son discours en posant les principes qui devraient gouverner son royaume de grâce divine, comme ils sont contenus dans les diverses béatitudes. Bienheureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit sont ceux qui ne font pas prétention de mérite personnel et ne se glorifient d'aucune vertu. Ayant compris leur complète incapacité, et profondément convaincus de péché, ils ne mettent plus de confiance dans les cérémonies extérieures, mais se confie entièrement en Jésus qui est toute justice et plein de compassion. Le chrétien ne peut s'élever que par l'humilité. Le cœur orgueilleux s'efforce en vain de gagner le salut par les bonnes œuvres. Car quoique personne ne puisse être sauvé sans bonnes œuvres, celles-ci seules ne suffiront pas à mériter la vie éternelle. Après que l'homme a fait le bien qu'il lui est possible de faire, Christ doit lui imputer sa propre justice. En Christ, Dieu a fait le plus grand don du ciel pour racheter l'homme, et, comme ce don est complet et infini, la grâce qui sauve est aussi sans limite et est parfaitement suffisante. Ces paroles de Jésus étaient la hache qui coupait à sa base la propre justice des pharisiens qui se sentaient déjà riches en connaissances spirituelles et pensaient n'avoir pas besoin d'en apprendre davantage. De tels caractères ne pouvaient avoir part au royaume de Christ. Bienheureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. En prononçant une bénédiction sur ceux qui pleurent, Jésus ne veut pas dire qu'il y ait quelque vertu à demeurer sous un nuage perpétuel, ou que le chagrin égoïste et la plainte aient quelque mérite pour ôter la moindre tache de péché. Les pleurs dont parle Christ sont une sainte douleur d'avoir péché qui produit une repentance en vie éternelle. Beaucoup s'attristent quand leur culpabilité est découverte, parce que le résultat de leur mauvaise conduite les a mis dans des circonstances pénibles. Après qu'Ésaü fut tombé dans le péché, il éprouva du chagrin d'avoir méprisé et vendu son droit d'aînesse. Mais c'était la conséquence imprévue de ses péchés qui causait sa douleur. De même, Pharaon regretta sa défiance obstinée envers Dieu, quand il cria avec larmes pour que les plaies fussent éloignées de lui. Mais son cœur n'était pas changé, et il était prêt à commettre à nouveau son péché quand il y avait du relâche. Cette affliction-là ne conduit pas à la repentance. Celui qui est vraiment convaincu de péché sent que toute sa vie a été une vie d'ingratitude. Il sent qu'il a ravi à son meilleur ami le temps et la force qui furent achetés par lui à un prix infini. Son âme est saisie d'une inexprimable douleur de ce qu'il a fait mourir, et de ce qu'il a dédaigné, et affligé son sauveur compatissant. Une telle affliction est précieuse car elle produit des fruits paisibles de justice. Le mondain, à son point de vue, peut déclarer que cette affliction est une faiblesse. Mais c'est la force qui unit le pénitent au Dieu infini avec des liens qui ne peuvent être brisés. Elle montre que les anges de Dieu rendent à son âme les grâces perdues par la dureté du cœur et la transgression. Confesser et déplorer ses erreurs montre une excellence de caractère capable de les discerner et de s'en corriger. Les larmes du pénitent ne sont que les nuages et les gouttes de pluie qui précèdent le soleil de la sainteté, l'affliction qui annonce une joie qui sera une fontaine de vie pour l'âme. Les hommes qui sèment maintenant dans le grand champ de Dieu avec peine et avec larmes, néanmoins avec une attente patiente, seront bénis. Car le ciel s'ouvrira, et la pluie tombera, assurant une abondante moisson lorsque le Maître viendra, il s'en retournera joyeux en emmenant chez lui ses gerbes. Bienheureux sont les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les difficultés que le chrétien rencontre pourraient être bien amoindries par la débonnairité de caractère qui se cache en Christ. Jésus invite tous ceux qui sont travaillés et chargés à venir à lui qui est doux et humble de cœur, afin qu'ils trouvent le repos. Si le chrétien possède l'humilité de son maître, il s'élèvera au-dessus du mépris, des dédains et des vexations auxquels il est exposé journellement, et ils cesseront de jeter du chagrin sur son esprit. Cette débonnairité que Jésus bénit, opère dans les scènes de la vie domestique, elle rend la famille heureuse, elle ne provoque aucune querelle, évite toute réponse aigre, elle adoucit les tempéraments irritables et répand une bienveillance qu'éprouvent tous ceux qui sont sous son influence. Elle calme l'inflammable esprit de revanche, et reflète le caractère de Christ. Il serait infiniment meilleur pour les chrétiens de souffrir de fausses accusations que de supporter la torture de la conscience après s'être vengés de leurs ennemis. La haine et la vengeance sont des instigations de Satan, et n'apportent que le remords à ceux qui en sont animés. L'humilité du cœur est la force qui donne la victoire aux chrétiens. Sa récompense est un héritage de gloire. Bienheureux sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Comme le corps sent la nécessité d'une nourriture temporelle pour suppléer à ses pertes et conserver sa force physique, ainsi l'âme doit désirer la nourriture qui augmente sa force morale, et satisfait les besoins de l'esprit et du cœur. De même que le corps reçoit continuellement la nourriture qui soutient la vie et la vigueur, l'âme doit recevoir la nourriture céleste qui donne, pour ainsi dire, les muscles et les nerfs spirituels. Comme le voyageur fatigué cherche ardemment la source d'eau dans le désert, et, l'ayant trouvée, étanche sa soif brûlante dans ses eaux fraîches et pures, ainsi le chrétien doit désirer et rechercher les eaux pures de la vie, dont Christ est la source. À cette source, l'âme peut être désaltérée, la fièvre qui naît des luttes mondaines est apaisée, et l'esprit est pour toujours rafraîchi. Mais la plupart de ceux qui écoutaient Jésus n'avaient faim que d'avantages et d'honneurs mondains. Nous voyons particulièrement l'amour-propre des pharisiens les empêchant de rechercher un état plus élevé que celui auquel ils avaient atteint, car dans leur propre estimation, ils avaient atteint au fait même de la parfaite justice. Quoi qu'il en soit, il y en eut plusieurs qui entendirent avec reconnaissance les leçons de Jésus, et qui, dès ce temps, réglèrent leur vie sur ses enseignements. Bienheureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus censurait par ses paroles toute l'arrogance et l'intolérance cruelle des Juifs. Prêtres et peuple en général accablaient tous ceux qui leur étaient opposés, se montrant critiques sévères et gardant du ressentiment de tout blâme jeté sur leurs actes. Jésus disait aux pharisiens, « Vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes sortes d'herbes, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Le Sauveur désirait enseigner à ses disciples une leçon de miséricorde afin qu'ils ne manquassent point de cette tendre compassion qui plaint et secourt ceux qui sont dans la souffrance et dans l'erreur, et évite d'exagérer les fautes d'autrui. Bienheureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les Juifs étaient si rigoureusement stricts à l'égard de la pureté cérémonielle que leur règlement était extrêmement gênant. Leurs esprits étaient si occupés de règles et de restrictions, et de la crainte de la souillure extérieure, qu'ils perdaient de vue la nécessité de la pureté des motifs et de la noblesse d'action. Ils n'apercevaient pas la tâche que l'égoïsme, l'injustice et la malice laissent sur l'âme. Jésus déclarait que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Qu'ils le reconnaîtraient dans la personne de son Fils, qui était envoyé au monde pour le salut de la race humaine. Leurs esprits étant purifiés et occupés de saintes pensées, ils découvriraient plus clairement le Créateur dans les œuvres de sa main puissante, dans les beautés et les magnificences que renferme l'univers. Ils vivraient comme en la présence visible du Très-Haut, dans un monde qui est sa création, et durant tout le temps qui leur est donné en partage sur cette terre. Ils verraient aussi Dieu dans l'immortalité à venir, comme Adam quand il marchait et parlait avec Dieu en Éden. Déjà maintenant, ceux qui ont le cœur pur voient Dieu comme dans un miroir, obscurément, mais alors ils le verront face à face. Bienheureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Notre Père céleste est un Dieu de paix. Quand il créa l'homme, il le plaça dans un lieu de paix et de sûreté. Tout était unité et bonheur dans le jardin d'Éden. Ceux qui sont participants de la nature divine aimeront la paix et le contentement. Ils cultiveront les vertus qui procurent ces résultats. Ils chercheront à adoucir la colère, à calmer le ressentiment et l'esprit d'accusation qui entretiennent les querelles et les dissensions. Plus les hommes s'unissent au monde, et tombent dans ses errements, moins ils possèdent les vrais éléments de paix dans leur cœur et plus ils sont livrés à l'amertume des luttes mondaines, à la jalousie et aux mauvaises pensées les uns envers les autres. Et ces sentiments n'ont besoin pour se développer que de certaines circonstances qui les changent en mauvaises actions, et les font devenir d'actifs agents du mal. Ceux qui s'irritent méchamment à la moindre provocation, et ceux qui veillent sur les paroles et les actes d'autrui pour les reporter secrètement où ils exciteront la haine, sont directement l'opposé de ceux qui procurent la paix, et qui sont appelés enfants de Dieu. Le vrai chrétien, dans ses rapports avec les hommes, évitera toutes les paroles qui tendraient à provoquer la colère et d'inutiles débats. Tout le ciel est en paix, et ceux qui sont en rapport intime avec Christ, seront en harmonie avec le ciel. Jésus déclarait, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ceux qui sont en communion avec Christ ne seront pas inquiets et mécontents. Ils partageront la nature de Christ et leur vie imitera son exemple. Les multitudes étaient étonnées de cette doctrine si différente des préceptes et de l'exemple des scribes et des pharisiens. Le peuple avait été imbu par eux de l'idée que le bonheur consistait dans la possession des choses de ce monde, et que l'on devait aspirer à la gloire et à l'honneur qui viennent des hommes. Ils prenaient plaisir à être appelés rabbis, et à être loués comme des hommes très sages et religieux. Ils aimaient à faire parade de leurs vertus en public. C'était considéré comme le fait du bonheur. Mais Jésus déclara en présence de cette grande foule que le gain et l'honneur de ce monde sont toute la récompense que de telles personnes recevront jamais. Jésus parlait avec assurance, et un pouvoir convaincant accompagnait ses paroles. Le peuple était réduit au silence, et un sentiment de crainte remplissait les cœurs. Ils se regardaient les uns les autres avec un air de doute. Qui pourrait donc être sauvé si les paroles de cet homme étaient vraies? Beaucoup étaient convaincus que ce remarquable docteur était animé de l'Esprit de Dieu, et que les sentiments qu'il exprimait étaient divins. Ces leçons avaient particulièrement pour but de faire du bien aux disciples dont la vie devait être gouvernée par les principes qu'elle renfermait. Ce devait être leur œuvre de communiquer au monde la connaissance divine qu'il recevait de Jésus. C'était leur tâche de répandre l'Évangile au long et au large parmi les peuples de tous les pays, et il était important que les leçons de Jésus fussent claires dans leurs esprits, gravées dans leur mémoire, et incorporées dans leur vie. Chaque vérité devait être gardée dans leurs esprits et dans leurs cœurs pour un usage futur. Après que Jésus eut expliqué au peuple ce qui constituait le vrai bonheur, et comment il peut être obtenu, il définit plus particulièrement le devoir de ses disciples, comme docteurs choisis de Dieu pour conduire les hommes dans le chemin de la justice et de la vie éternelle. Il savait qu'ils souffriraient souvent de déceptions et de découragements, qu'ils rencontreraient une vive opposition, qu'ils seraient insultés, et que leurs témoignages seraient rejetés. Ses yeux pénétrants voyaient dans l'avenir les années de leur ministère, et apercevaient le chagrin et les injures qui accompagneraient leurs efforts pour appeler les hommes au salut. Il savait bien que les humbles disciples qui écoutaient si attentivement ses paroles, auraient à supporter, dans l'accomplissement de leur mission, la calomnie, la torture, l'emprisonnement et la mort, et il continue. Bienheureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Vous serez bienheureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous alors, et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus leur montre ici qu'au temps même où ils éprouvent de grandes souffrances pour sa cause, ils ont lieu d'être contents, et il reconnaît que leurs afflictions leur sont profitables, ayant une grande influence pour détacher leurs affections du monde et les concentrer sur le ciel. Il leur enseigna que leurs pertes et leurs déceptions seraient changées en gains et que les grandes épreuves de leur foi et de leur patience devraient être acceptées joyeusement plutôt que craintes et évitées. Ces afflictions seraient des agents de Dieu pour les rendre propres à cette œuvre particulière, et ajouteraient à la précieuse récompense qui les attendait au ciel. Il leur recommande, quand ils seront persécutés, de ne point perdre confiance, et de ne point se laisser abattre ou murmurer de leur pénible lot, mais de se souvenir que les hommes justes des temps passés avaient également souffert pour leur obéissance. Désireux de remplir leur devoir dans le monde, fixant leur désir sur l'approbation de Dieu, ils devaient s'acquitter avec calme et fidélité de chaque devoir, indépendamment de la crainte, ou de la faveur de l'homme. Les choses qui semblent aux chrétiens des plus cruelles deviennent souvent la plus grande bénédiction. Les reproches et les fausses accusations ont toujours été le partage de ceux qui ont été fidèles à remplir leurs devoirs. Un caractère juste, quoique noirci dans sa réputation par la calomnie et la médisance, gardera la pureté de sa vertu et de son excellence. Traîné dans la fange, ou élevé au ciel, la vie du chrétien doit être la même, et la conscience fière de son innocence est sa propre récompense. La persécution de la part des ennemis éprouve le fondement sur lequel repose réellement la réputation. Tôt ou tard il est révélé au monde si ces méchants rapports étaient vrais, ou si c'étaient les traits empoisonnés de la malice et de la vengeance. La constance à servir Dieu est la seule manière de régler de telles questions. Jésus désire que ses disciples aient le plus grand soin de ne donner aux ennemis de sa cause aucun sujet de condamner leur sainte foi. Aucune mauvaise action ne doit jeter une flétrissure sur sa pureté. Quand tous les arguments font défaut, les calomniateurs ouvrent fréquemment leur feu amer sur les serviteurs de Dieu. Mais leur langue mensongère apporte finalement la malédiction sur eux-mêmes. À la fin Dieu, vengera le juste, honorera l'innocent, et les cachera dans le secret de son pavillon à l'abri des atteintes de la langue. Les serviteurs de Dieu ont toujours souffert l'opprobre. Mais la grande œuvre se poursuit au milieu de la persécution, des emprisonnements, des luttes et de la mort. Le caractère de la persécution change avec les temps, mais le principe, l'esprit qui en est la base, est le même que celui qui animait ceux qui lapidèrent, bâtirent et tuèrent les élus du Seigneur il y a quelques siècles. Il n'y eut jamais homme plus cruellement calomnié que le Fils de Dieu. Il rencontrait à chaque pas les paroles les plus amères. Il était haï sans cause. Les pharisiens payèrent des hommes pour aller répéter de ville en ville les calomnies qu'ils inventaient eux-mêmes pour détruire l'influence de Jésus. Mais il se tient calme devant eux, déclarant que l'opprobre était une partie du lot du chrétien, conseillant à ses disciples comment ils devaient affronter les flèches de la malice, leur recommandant de ne point défaillir sous les persécutions, mais de se réjouir, et tressaillir de joie. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus continua à imprimer dans le cœur de ses disciples le sentiment de leur responsabilité dans leur relation avec le monde. Il dit : Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors, et à être foulé aux pieds par les hommes. Le peuple pouvait voir le sel blanc, étincelant sur le sentier où il avait été jeté parce qu'il avait perdu sa saveur, et était par conséquent hors d'usage. Jésus se sert du sel comme d'un exemple de l'influence de la vie du chrétien dans le monde. Si ce n'étaient les quelques justes qui habitent la terre, la colère de Dieu ne tarderait pas un instant de punir les méchants. Mais les prières et les bonnes œuvres des enfants de Dieu préservent le monde. Ils sont une saveur de vie. Mais si les chrétiens ne sont tels que de nom, s'ils n'ont pas le caractère de la vertu, et une vie pieuse, ils sont comme du sel qui a perdu sa saveur. Leur influence sur le monde est mauvaise. Ils sont pires que les incrédules. Jésus se servait, comme emblème des vérités enseignées à ses disciples, d'objets qui fussent à la vue de ses auditeurs. Le peuple était accouru pour l'entendre, quoiqu'il fût encore bientôt. Le soleil glorieux s'élevant de plus en plus dans le ciel bleu, chassait l'obscurité qui s'enfuyait dans les vallées et les étroits défilés des montagnes. La gloire du ciel d'Orient n'était pas encore affaiblie. La lumière de l'astre du jour couvrait le pays de sa splendeur, la tranquille surface du lac reflétait la lumière dorée et miroitait les nuages empourprés du matin. Sur l'herbe et les fleurs scintillaient les gouttes de rosée. La nature souriait sous la bénédiction d'un nouveau jour, et les oiseaux chantaient doucement dans le feuillage des arbres. Le Sauveur, jetant un coup d'œil sur le peuple qui était devant lui, puis sur le lever du soleil, dit à ses disciples : Vous êtes la lumière du monde. Cette figure était particulièrement frappante. Comme le soleil éclaire la campagne de ses rayons vivifiants et chasse les ombres de la nuit, ainsi les disciples devaient répandre la lumière de la vérité, et chasser les ténèbres morales qui s'étendaient sur le monde. Vus à la lueur du matin, les villes et les villages étagés sur les pentes et les sommets des collines environnantes, formaient comme le cadre de la scène. Jésus y faisait allusion en disant : Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume point une chandelle pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dans ses paroles, Jésus enseignait à ses disciples que s'ils voulaient diriger les autres dans le chemin de la justice, leur propre exemple devait être juste, et leurs actes reflétaient la lumière de la vérité. Les misères morales abondent, et les ténèbres couvrent la terre. Mais les disciples de Christ sont représentés comme des lumières éclairant au milieu de l'obscurité de la nuit. Leurs rayons révèlent les dangers qui se trouvent dans les sentiers des pécheurs, et montrent le vrai chemin de la justice et du salut. Si ceux qui professent d'être disciples de Christ et d'avoir la lumière de la vérité ne sont pas soigneux de présenter cette vérité aux autres d'une manière convenable, ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur n'y verront aucune beauté. Si la personne portant une lanterne pendant une nuit obscure pour éclairer le chemin d'un voyageur, vient à s'interposer entre la lumière et le voyageur, l'obscurité de la nuit deviendra encore plus intense pour celui que l'on conduit. Il en est ainsi de beaucoup de gens qui essayent de présenter la vérité de Dieu à d'autres. Ils cachent la lumière précieuse par leur caractère défectueux, et mettent en évidence ce qu'il y a de haïssable en eux, ce qui en détourne beaucoup de la vérité. Le caractère de ceux qui professent être disciples de Christ doit être tel, et leurs actions si exemplaires que le monde soit attiré vers une religion qui porte de semblables fruits de justice. Les hommes seront ainsi engagés à étudier et à embrasser les principes d'une telle religion par le fait que la vie de ses représentants brille d'un éclat de pureté tel qu'ils sont comme des phares éclairant les ténèbres du monde. Les pharisiens se retiraient du monde, et se mettaient ainsi dans l'impossibilité d'exercer une influence sur le peuple et parmi le monde. Mais Jésus appelle ses disciples la lumière du monde. Leurs enseignements et leurs exemples doivent chasser les ténèbres de l'erreur, et tous les peuples et nations doivent éprouver leur influence. La religion de la Bible ne doit pas être confinée entre les couvertures d'un livre ni les murailles d'un temple. Elle ne doit pas être exposée occasionnellement seulement, et à notre propre avantage, et ensuite mise de côté, mais elle doit sanctifier la vie journalière, se manifester dans chaque transaction commerciale et dans toutes les relations de la vie sociale. Une telle religion est en parfait contraste avec celle des pharisiens, qui consistait seulement dans l'observation extérieure des règles et des cérémonies, et ne répandait aucune influence qui ennoblit leur vie. Jésus était assidûment surveillé par des espions prêts à saisir toute parole imprudente qui aurait pu s'échapper de ses lèvres. Le Sauveur était bien averti des préventions qui existaient dans l'esprit de ses auditeurs. Il ne dit rien pour ébranler la foi des Juifs dans la religion et les institutions de Moïse. La même voix qui donna la loi morale et la loi cérémonielle, qui formaient la base de tout le système judaïque, proclama aussi les paroles d'instruction sur la montagne. C'est à cause de sa grande vénération pour la loi et les prophètes que Jésus chercha à démolir les murailles de superstition qui enveloppaient les Juifs. Il voulait que non seulement ils observassent la loi, mais qu'ils missent en pratique les principes de cette loi et les enseignements des prophètes. Jésus critiquait sévèrement la fausse interprétation que les Juifs donnaient à la loi, tout en mettant ses disciples suffisamment en garde contre le danger de négliger les vérités vitales données aux Hébreux. Jésus n'était pas venu pour détruire leur confiance dans les instructions qu'il leur avait lui-même données par Moïse dans le désert. Mais, tandis qu'il leur enseignait à rendre à cette loi le respect qui lui est dû, il désire les conduire à des vérités plus élevées, à des connaissances plus grandes, afin qu'ils puissent avancer dans une lumière plus brillante. Comme Jésus expliquait à ses disciples leur devoir d'accomplir des œuvres de justice, les pharisiens virent que les doctrines qu'il enseignait condamnaient leurs actions, et, afin d'indisposer le peuple contre le grand docteur, ils se disaient l'un à l'autre, à voix basse, que les leçons de Jésus étaient en opposition avec la loi de Moïse, parce qu'il ne faisait pas mention de cette loi. De cette manière, ils désiraient soulever l'indignation du peuple contre Christ. Mais Jésus voyant leur intention, en présence de la grande foule, et d'une voix claire et distincte, déclara à la confusion de ses ennemis les paroles suivantes. Ne pensez point que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il n'y aura rien dans la loi qui ne s'accomplisse, jusqu'à un seul iota, et à un seul trait de lettre. Ici Jésus réfute l'accusation des pharisiens. Sa mission dans le monde est de revendiquer les exigences de cette loi sacrée qu'il l'accusait de violer. Si la loi de Dieu avait pu être changée ou abolie, Christ n'aurait pas eu besoin de venir dans un monde déchu pour souffrir la conséquence de la transgression de l'homme. Jésus vint pour expliquer la relation de la loi de Dieu avec l'homme, et pour montrer ses préceptes par l'exemple de son obéissance. Il déclara en huit que, celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. C'est ainsi que Jésus proclame la validité de la loi morale. Ceux qui désobéissent aux commandements de Dieu, et qui enseignent aux autres à faire la même chose par leur exemple, sont condamnés par Christ. Ils sont les enfants du malin qui, le premier, fut rebelle à la loi de Dieu. Ayant explicitement déclaré son respect pour la loi de son Père, Jésus, dans ses mots, condamne les pratiques des pharisiens, qui étaient stricts dans leur observance extérieure de cette loi pendant que leur cœur et leur vie étaient corrompus. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La justice que Jésus réclame est la conformité du cœur et de la vie à la volonté de Dieu telle qu'il l'a révélée. Jésus enseignait que la loi de Dieu devait régler les pensées et les intentions du cœur. La vraie piété élève les pensées et les actions. Alors les formes extérieures de la religion s'accordent avec la pureté du cœur. Alors les cérémonies qu'exigent le service de Dieu ne sont point des rites insignifiants, semblables à ceux des pharisiens hypocrites. Beaucoup de ministres de nos jours transgressent les commandements de Dieu, et enseignent aux autres à faire de même. Au lieu des saints commandements, ils enseignent audacieusement les coutumes et les traditions des hommes, sans égard au témoignage direct de Christ qui dit que ceux qui font cela seront les plus petits au royaume des cieux. Jésus déclara à la multitude assemblée pour l'entendre, aux pharisiens qui cherchaient à l'accuser de déprécier la loi, et aux hommes de tous les temps, que les préceptes de Jéhovah sont immuables et éternels. On avait rapporté que des meurtres et des vols avaient été commis dans la région sauvage qui avoisinait Capharnaüm, de sorte que ceux qui étaient assemblés pour entendre Jésus éprouvaient tous un sentiment d'horreur et d'indignation. Le divin maître profita de cette circonstance pour en tirer une importante leçon, en disant « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par le jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause, sera puni par le jugement. Et celui qui dira à son frère « Raca » sera puni par le conseil, et celui qui lui dira « Fou » sera puni par la géhenne du feu. » Jésus décrit ici le meurtre comme existant d'abord dans la pensée. La malice et la rancune, qui se changeraient en actes de violence, sont en elles-mêmes des meurtres. Jésus va encore plus loin et dit, « Quiconque se met en colère sans cause contre son frère, sera puni par le jugement. Il y a une colère qui n'est pas criminelle de sa nature. Une certaine indignation peut se justifier, dans certaines circonstances, même chez les disciples de Christ. Quand il voit Dieu déshonoré, son nom méprisé, et la précieuse cause de sa vérité mise en discrédit par ceux qui professent de la révérer. Quand il voit l'innocent oppressé et persécuté, une juste indignation soulève leur âme. Une telle colère, qui naît de sentiments moraux, sensibles, n'est pas un péché. Parmi les auditeurs de Jésus, il en est qui se louent de leur propre justice parce qu'ils n'ont pas commis quelque crime visible, tout en nourrissant dans leur cœur les sentiments mêmes qui ont poussé des meurtriers à commettre leurs actions criminelles. Pourtant ces personnes font profession de piété, et se conforment aux exigences de la religion extérieure. À de tels gens, Jésus adresse ces paroles. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère. Et après cela viens, et offre ton offrande. Il montre ainsi que les crimes ont leur source dans le cœur, et que ceux qui laissent entrer en eux l'esprit de haine et de vengeance, ont déjà posé le pied dans le chemin du meurtrier. Et leurs offrandes ne sont pas agréables à Dieu. Le seul remède est de déraciner toute aigreur et toute animosité du cœur. Mais le Seigneur va encore plus loin et déclare que si un autre a quelque chose contre nous, nous devons essayer de l'apaiser, et si possible lui ôter ce sentiment, avant que notre offrande soit présentée à Dieu. Cette leçon est d'une importance spéciale pour l'Église de nos jours. Beaucoup sont zélés dans les services religieux pendant que de malheureux différends existent entre eux et leurs frères, différents qu'il leur est possible de faire disparaître et que Dieu exige qu'ils fassent disparaître avant de vouloir accepter leur culte. Christ a indiqué si clairement la manière d'agir du chrétien, qu'il ne peut y avoir aucun doute dans notre esprit quant à notre devoir. Pendant que Jésus enseignait, on vit passer sur le lac des barques remplies de gens amateurs du plaisir, et tous savaient que ceux qui étaient dans ces barques étaient des gens de mauvaise réputation. Le peuple qui écoutait Jésus s'attendait à ce qu'il les censurât sévèrement, mais ils furent surpris lorsqu'il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Ceux qui ont considéré le coupable caractère de ceux dont la vie est une dissipation sensuelle, et qui les ont regardés comme les plus grands pécheurs, sont étonnés d'entendre Jésus assurer que ceux qui nourrissent des pensées impudiques, sont aussi coupables de cœur que les violateurs et honteux du septième commandement. Jésus condamne la coutume alors existante de répudier sa femme pour des offenses légères. Cette habitude menait au dévergondage et au crime. Jésus attaque la première cause de relâchement par lequel étaient affaiblies les relations du mariage, quand il condamne les passions profanes qui trouvaient dans l'institution du mariage, une barrière à la satisfaction de leur convoitise. Christ voulait que le mariage fût entouré de réserves judiciaires telles qu'il ne pût y avoir aucune séparation légale entre le mari et la femme, sauf en cas d'adultère. Ceux qui ont regardé les commandements de Dieu comme prohibant les crimes visibles, mais n'atteignant pas plus loin, voient ici qu'on doit obéir à la loi de Dieu en esprit aussi bien qu'à la lettre. De cette manière, Jésus prend les commandements séparément et explique la profondeur et l'étendue de leurs exigences, montrant l'erreur fatale des Juifs dans leur obéissance essentiellement extérieure. Jésus donne une leçon au sujet du serment, disant, « Que votre parole soit. Oui, oui, non, non, ce qu'on dit de plus vient du malin. » Le troisième commandement condamne le jureur profane, mais l'esprit du précepte atteint au-delà, et défend que le nom de Dieu soit mêlé à la conversation d'une manière négligente et irrévérencieuse. Beaucoup de personnes, même parmi celles qui professent être les disciples de Christ, ont l'habitude d'user légèrement du nom de Dieu, et même dans leurs prières et leurs exhortations, elles n'emploient pas ce nom suprême avec une solennité convenable. Un détachement de troupes romaines campait près de là sur les bords du lac, et Jésus est interrompu par le son éclatant de la trompette qui donne aux soldats le signal de s'assembler dans la plaine voisine. Il se place dans un ordre régulier et s'incline pour rendre hommage à l'étendard romain qu'on leur présente. Les Juifs regardent avec amertume cette scène qui leur rappelle qu'ils sont une nation assujettie. On voit alors des messagers se détacher de la troupe pour aller porter des ordres dans des postes éloignés. En montant la côte abrupte du lac, ils s'approchent de la foule assemblée autour de Jésus, et obligent quelques paysans juifs à porter leur fardeau pour monter la côte escarpée. Les paysans résistent à cet acte d'oppression en adressant des paroles violentes à leurs persécuteurs. Mais ils sont finalement obligés d'obéir aux soldats et d'accomplir la tâche humiliante qui leur est demandée. Cette exhibition de l'autorité romaine remplit le peuple d'indignation et il se tourne avec une ardente curiosité du côté de Jésus pour écouter ce qu'il dirait de cet acte d'oppression. Attristé à la pensée des péchés qui avaient amené les Juifs sous un tel esclavage, Jésus regardait cette scène honteuse. Il vit aussi la haine et l'esprit de vengeance empreint sur le visage des Juifs, et savait combien ils désiraient pouvoir écraser leurs oppresseurs. Il prononça alors tristement ces paroles. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister à celui qui vous fait du mal. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi, et t'ôter ta robe, laisse lui encore l'habit. Et si quelqu'un te veut contraindre d'aller une lieue avec lui, vas en deux. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. L'exemple de Jésus était une démonstration pratique de la leçon qui est enseignée ici. L'injure et la persécution ne le poussèrent jamais à rendre la pareille à ses ennemis. Mais c'était une forte leçon pour les Juifs vindicatifs, et ils en murmurèrent entre eux. Jésus fait alors une déclaration plus forte. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père céleste qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? La haine que nous témoignons à nos ennemis ne détruira jamais leur malice. Mais l'amour et la bienveillance produisent l'amour, et la bienveillance en retour. Quoique Dieu récompense fidèlement la vertu et punisse le mal, il ne retire pas ses bénédictions aux méchants, quand même il déshonore journellement son nom. Il fait luire son soleil et fait descendre sa pluie sur les justes et les injustes, leur partageant également les bénédictions terrestres. Si un Dieu saint exerce un tel support et une telle bienveillance envers les rebelles et les idolâtres, combien est-il nécessaire que les hommes coupables manifestent un même esprit envers leurs prochains? Au lieu de maudire ceux qui les injurient, il est de leur devoir de chercher à les détourner de leur mauvaise voie par une bonté semblable à celle qu'avait Christ pour ceux qui le persécutaient. Jésus enseignait à ses disciples à montrer une bienveillance chrétienne envers tous ceux qui sont sous leur influence, qu'ils ne devaient pas oublier les actes de miséricorde, et que lorsqu'on leur demanderait une faveur, ils devaient montrer une bienveillance supérieure à celle des mondains. Les enfants de Dieu devraient représenter l'Esprit qui règne dans le ciel. Leurs principes d'action ne doivent pas avoir le même caractère d'étroitesse, d'égoïsme, que ceux du monde. La perfection seule peut satisfaire le modèle divin. Comme Dieu lui-même est parfait dans sa sphère élevée, de même les enfants de Dieu doivent être parfaits dans l'humble sphère qu'ils occupent. Ce n'est que de cette manière qu'ils peuvent être dignes de se joindre aux êtres saints qui peuplent le royaume des cieux. Christ adresse à ses disciples ces paroles qui montrent le vrai modèle du caractère chrétien : « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. »